Et mon premier appel, c'est l'appel de Miguel. Bonsoir Miguel.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue sur cette libre antenne.
Merci, merci de me recevoir. Je vous écoutais un instant et je me disais, c'est terrible ce que vous dites, il suffit d'un mot. Et c'est vrai qu'on se dit, avec un mot, parfois on peut faire du mal.
Oui.
Et on peut réparer aussi, heureusement, mais surtout faire du mal. Et c'est vrai que ce que je traverse en ce moment, je me dis, j'espère que j'ai les bons mots, j'espère que je dis les bons mots. Et sûrement que je suis maladroit, mais voilà, ça m'a fait... Voilà,
ça a résonné en vous.
Ça a résonné, ce que vous avez dit là. Et c'est vrai, hein, c'est vrai que ces mots, parfois, que l'on essaie de retenir, et parfois on dit, bon ben... Il faut les balancer parce que ça fait trop mal et en fait, ça fait plus de dégâts. Enfin, bon.
Alors, racontez-moi ce qui vous arrive là en ce moment.
Alors, en fait, moi, je suis dans un vacarme, j'appelle le mot vacarme émotionnel assez puissant parce que mon père a eu un AVC il n'y a pas très longtemps, le 3 septembre. Et je ne m'attendais pas du tout parce que mon père a été le pilier de la famille. De notre famille, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il tombe comme ça. Et donc, ça a été un bouleversement terrible, parce que, justement, je n'avais pas encore dit les mots que j'avais envie de lui dire. Et puis, donc, je me suis retrouvé à l'hôpital à son chevet. Mes parents vivent en Espagne, je suis parti précipitamment en Espagne rejoindre mes parents là-bas.
Pardon Miguel, on ne vous entend pas très très bien, ne bougez pas le téléphone s'il vous plaît.
D'accord, pardon.
Merci.
Pardon.
C'est un monsieur qui a quel âge votre papa?
Mon papa a 81 ans.
D'accord.
81 ans, et il a toute sa tête, et voilà, il a eu un moment, son cerveau a dit stop, donc il a fait un AVC. Et c'était sa façon à lui de dire que voilà, que c'était un peu trop ce qu'il portait.
Mmh.
Et donc, là, je me suis rendu compte qu'il y a des mots que j'aurais pu éviter de lui dire avant, les années qui ont précédé, les mois qui ont précédé, les semaines qui ont précédé. Et peut-être que j'aurais dû dire d'autres mots. Voilà, ça, je fais le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure.
Mais est-ce qu'il était état de comprendre encore à l'hôpital ou c'était...
Alors, pendant 15 jours, ça a été terrible. Pendant 15 jours, il ne me reconnaissait plus.
Ah oui.
Il avait des hallucinations. Donc c'était très très dur. Très très dur au début de me dire je l'ai perdu, il est ailleurs. Il est où d'ailleurs? Il est ailleurs. Et surtout, j'ai assisté à une scène qui a été terrible. Je me suis absenté juste 2 heures pour aller m'occuper de ma mère qui elle aussi est souffrante. Et donc je suis allé. Et en revenant, mon père. J'avais du mal à respirer, puis j'ai insisté auprès des infirmières pour qu'elles viennent s'occuper de lui. Finalement, elles sont venues et il était en train de s'étouffer, il était en train de mourir sous mes yeux. Et donc, branle-bas de combat à l'hôpital, donc les médecins arrivent, ça s'aligne de partout, ça sonne de partout.
Mmh.
On lui tape dessus pour lui dire « Allez, revenez, revenez, revenez ». L'appareil pour retirer les mucosités qui a été incrusté dans le mur ne fonctionnait pas. Donc, voilà, panique à bord, sous mes yeux, là, on sauve mon père, et on me dit, suite à son AVC, il a failli mourir étouffé, donc, et suite à ça, on me dit, de toute façon, on ne pourra pas lui mettre de respiration artificielle parce qu'il est trop âgé, parce qu'il a un AVC, et je pense aussi parce que nous sommes en pleine crise sanitaire et qu'il y a des appareils respiratoires qui sont peut-être utilisés pour d'autres circonstances. Enfin, bref,
les fameux choix terribles qui ont été faits.
Voilà. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé avec mon père toute une nuit pendant laquelle je savais qu'il partait. Il partait. On me disait, on l'a mis sous morphine. Et donc, je me dis, c'est un face-à-face, un tête-à-tête où il n'était plus vraiment présent, seulement par le contact physique. Donc, je lui ai beaucoup parlé, je l'ai beaucoup massé, je me suis trouvé des vertus d'acupuncteur ou de réflexologue parce que j'appuyais sur des points en imaginant que ça pouvait soulager ses douleurs.
Ouais.
Mais j'ai beaucoup parlé, je lui ai demandé pardon pour ce que j'avais peut-être, pour justement certains mots, j'ai jamais été grossier avec mon père, mais je pense que j'étais maladroit, comme beaucoup de personnes.
Ben oui.
Donc je lui ai demandé pardon et je lui ai chanté des chansons parce qu'on a, beaucoup chanté quand mon père, je l'ai toujours entendu chanter. Il m'a donné, il m'a transmis cette passion-là. Et donc, voilà, et puis je l'ai surtout remercié et lui ai dit à quel point j'étais fier de lui d'avoir tenu la barque. La barque, c'est notre barque, parce que nous avons traversé des épreuves très difficiles depuis la mort de mon frère. Et c'est mon père qui a tenu la barque pendant très, très longtemps. Et donc, j'ai voulu lui remercier, lui dire à quel point j'étais fier de lui et qu'il m'avait montré le chemin. Et que je ne voulais surtout pas qu'il parte. S'il avait décidé de partir, voilà, qu'il partirait. Mais en tous les cas, que j'avais encore besoin de lui. Voilà, je me revois en train de lui dire que j'avais besoin encore de lui. Mmh. Et puis, à 6h du matin, contre tout espoir, il est resté, et encore là. Il est en maison de rééducation maintenant, et voilà, il a récupéré sa tête.
Il a récupéré ses esprits, alors.
Ah oui, il a récupéré ses esprits, oui. Oui.
Est-ce que vous lui avez parlé de cette conversation ?
Ça commence à venir, parce qu'il a besoin de... Je crois qu'il n'a pas tout à fait compris. Maintenant, il commence à comprendre ce qui s'est passé.
D'accord.
Il me demande ce qui s'est passé, et je lui en ai parlé... Et sa pudeur a fait qu'il n'a pas relevé, parce qu'il était un homme très pudique. Ça nous a beaucoup rapprochés.
Moi, je suis persuadée que c'était un moment extrêmement important pour lui et que peut-être c'est même ça qui l'a fait revenir.
Oui, parce qu'il m'a dit qu'il entendait tout. Et il me dit, tu sais, j'entendais quand les médecins disaient que c'était fini, parce qu'ils n'étaient pas très finaux, ils étaient à côté. Et pendant toute la scène et après cette scène-là, et quand les médecins venaient, ils sont venus le lendemain, en disant, de toute façon, voilà, on faisait comprendre que... Il me dit, j'entendais tout. Donc je pense qu'il a dû m'entendre quand je disais que je l'aimais, que je tenais à lui, que j'avais besoin de lui.
Ouais.
Et voilà, et vers 4 heures du matin, je n'en pouvais plus, j'étais épuisée. Et je me suis dit, bon ben, advienne que pourra, maintenant, je tenais plus debout. Je me suis endormie à côté de lui. Et puis, à 6 heures du matin, voilà, j'ai senti sa respiration a changé. J'ai senti qu'il était resté. Il avait fait le choix de rester.
Mais alors, vous avez mentionné votre maman qui, elle aussi, est souffrante.
Oui.
C'était en réaction à ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'est passé?
Non, ma maman est souffrante. Ma maman est souffrante depuis 50 ans maintenant, depuis la mort de mon frère qui était tout jeune.
Alors, on va y revenir, effectivement, parce que j'ai l'impression qu'il y a un sacré nœud familial. Là, mais votre maman souffre de quoi?
Ma maman, elle souffre de Parkinson, elle est diagnostiquée Parkinson. Mais en fait, ça fait des années qu'elle traîne ça, mais le diagnostic n'a été fait que tardivement, pour des raisons que j'ignore, peut-être parce que je n'ai pas assez suivi ça.
Ne bougez pas trop, Miguel, je vous repère.
Oui, ah, pardon.
Voilà, merci.
Donc c'est une accumulation. J'ai toujours vu ma mère malade. De toute façon, j'ai toujours vu ma mère malade et toujours vu ma mère souffrante.
Donc, ça faisait beaucoup à gérer pour vous là.
Voilà, le Parkinson n'est que la suite logique, si j'ose dire, de ce qui s'est passé dans notre vie.
Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie justement?
La mort de mon frère il y a 50 ans, 51. En 71, donc ça fait 50 ans, ça fait 50 ans cette année.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Et mon frère est mort noyé dans un bassin derrière la maison, avec son meilleur petit ami, avec qui il jouait. Et c'était un drame qui nous a plongés dans un désarroi et duquel on a... dans lequel on a pu tenir grâce à mon père. C'est pour ça que quand mon père s'est effondré, là, c'était terrible, parce que c'est le pilier, c'est lui qui tenait tout, qui a tout tenu pendant ces années. Et donc,
quel âge avait votre frère quand ce drame est arrivé?
Il avait 5 ans.
Et vous?
Moi, j'avais 2 ans. 2 ans.
Ah oui.
Oui.
Et donc, il s'est noyé avec son petit copain dans un bassin.
Oui.
Il n'y avait personne pour les surveiller.
Ils avaient l'habitude d'aller là-bas et ce jour-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous savez, moi j'ai fait une enquête pendant il y a 2 ans. J'ai commencé à faire une enquête parce que on dit que c'est un accident, mais je suis tenté de croire que ça pourrait être autre chose qu'un accident. Mais c'est très délicat de parler de ça parce que ça pourrait incriminer certaines personnes.
Mais j'ose même pas imaginer le drame, quoi. C'est une violence.
Ah ben c'est, c'est, Oui, c'est la chose qu'on ne souhaite à personne, c'est-à-dire que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Donc du coup, ça a plongé, ça nous a plongé tous les trois.
Ah, c'est ça, c'est-à-dire que pour vous, vous avez aussi perdu les parents que vous aviez avant, quoi.
Complètement. Ben voilà, vous dites le mot, c'est-à-dire que en fait, souvent, on pense aux parents, on pense aux parents, à la souffrance des parents, ce qui est tout à fait normal, souvent plus à la souffrance de la mère que du père, alors qu'il n'y a pas de raison. Et on ne pense pas à la souffrance des enfants, des frères et sœurs qui restent là.
Et qui perdent effectivement les parents qu'ils avaient.
Exactement,
sont plus jamais les mêmes.
Exactement. On perd non seulement le frère, mais on perd aussi ses parents. Et moi, ce jour-là, j'ai perdu mes parents aussi.
Et oui, parce que quand on perd quelqu'un, une personne âgée, on doit faire le deuil de son passé. Mais quand on perd un bébé, on fait le deuil de son futur.
Oui.
Et la famille avec, et c'est vrai que vous, du haut de vos 2 ans, c'est un tsunami qui vous est tombé dessus, parce qu'en plus, j'imagine que... Qu'est-ce qu'on comprend à 2 ans d'un drame pareil, quoi ?
Eh bien, c'est bien ça le problème, parce qu'on grandit, et avec tous les non-dits qu'il peut y avoir, et tout ce qu'on pense faire pour protéger l'enfant que j'étais, et en fait, c'était aussi beaucoup de maladresse, mais...
C'est pire que tout, les non-dits, parce qu'un enfant sent les choses, et oui, évidemment.
Complètement, complètement. Et donc, et puis il n'y avait pas, à l'époque, des médecins ou des psys, dans
J'allais
tous les
vous
cas,
poser la question, justement, ouais, évidemment.
Bien sûr, C'est passé dans un petit village, on n'avait pas les moyens que l'on a aujourd'hui de parole, d'accueil de la parole et d'accompagnement. Donc, mes parents ont été livrés à eux-mêmes.
Dans un gouffre émotionnel, j'imagine, épouvantable.
Et moi, je n'ai pas été suivi non plus. Enfin, voilà. Bon, après, plus tard, quand je suis devenu un jeune homme, après l'adolescence, j'ai eu besoin, moi, de faire un suivi thérapeutique pour faire un travail sur moi et essayer de comprendre et de souffrir moins de tout ça. Donc,
Vos parents, comment ils ont tenu ? Comment ça s'est passé concrètement au quotidien ? Alors, comment ils ont fait ?
Oh, je pense que mon père a mis des œillères et il a tracé droit. Il a tracé tout droit. Et ma mère a sombré dans une forme de folie, de dépression, qui a été son lot quotidien depuis alors. Et moi, je me suis agité au milieu de tout ça en étant le garçon, comment dirais-je, l'enfant modèle. J'étais le premier à l'école, j'étais bien, quoi. Il fallait que je sois bien, il fallait que je sois responsable. Et en même temps, on prend conscience de ces situations, dans ces drames-là, les enfants, jeunes enfants. Vous vous doutez que j'ai beaucoup lu sur le sujet, je me suis beaucoup renseigné, j'ai essayé de comprendre. Enfin, c'était terrible, parce qu'à l'époque, je ne savais pas, je voulais rencontrer des gens comme moi pour comprendre si ce que je ressentais était correct. Vous voyez, à l'époque, j'avais pas. Alors je me trouvais anormal parce que je me dis, mais j'arrive pas à comprendre ce que je ressens. Et pour moi, voir ma mère pleurer tous les jours, voir mon père fuir dans le travail tous les jours, je comprenais pas. Et puis j'étais seul dans ce désarroi avec ces grandes photos de mon frère qui était dans la maison. Enfin voilà.
Ce sont des parents qui n'ont pas fait le deuil en réalité, alors qui ont continué à.
Oui.
Est-ce qu'ils ont, par exemple, laissé sa chambre à coucher ou quelque chose comme ça, ses affaires ?
Non, parce qu'ils ont déménagé, mais il y avait, quand on allait en Espagne, chez nous, il y avait toujours dans ma chambre 2 lits jumeaux et sa grande photo suspendue dans la chambre. Ouais. Donc, il était toujours présent par les photos. Dans ma chambre, il y avait une commode et cette commode était un hôtel.
Je vous repère, Miguel.
Je disais, vous m'entendez là ?
Oui.
Oui, je n'ai pas bougé. Je disais que dans ma chambre, il y avait un hôtel aussi. C'était une commode avec les photos de mon frère, etc. Et en fait, après coup, je me rendais compte que c'était un hôtel. J'avais d'ailleurs une espèce de rituel qui était le même tous les soirs. Il fallait que j'embrasse la photo. Il fallait que je... Voilà, donc j'avais, moi, une façon de me protéger dans du rituel. Et...
Parce qu'on ne vous a pas laissé beaucoup d'autres choix, finalement.
Ah ben non, non, mais je ne leur en veux pas, parce que je pense qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Je ne leur en veux pas. Et c'est maintenant que je me dis que si je les vois vieillir de cette façon-là maintenant, et avec autant de souffrances toujours présentes, c'est le fruit de ce qui s'est passé aussi, quoi. Ce n'est pas, c'est pas.
C'est, ils ont eu toute cette souffrance à bout d'un moment. C'est une accumulation qui sont en train de, qui ressort, oui, aujourd'hui par les maladies, vous pensez, oui.
Oui, oui, parce que mon père, par exemple, quand je l'ai vu après l'AVC, chose que je n'avais jamais vue, j'ai vu mon père pleurer, et pleurer pour des détails. Ces dernières semaines, il se met à pleurer, mais comme un gosse, à chaudes larmes. J'ai dit, mais qu'est-ce que... Cet AVC lui a permis de lâcher...
De baisser les barrières.
De contrôler, ouais. Ouais, de ne plus contrôler. Et ça, c'est assez émouvant, c'est fort, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il aurait... bien été pour lui qu'il pleure avant, mais...
Eh oui, mais comme vous avez dit, il a été un roc aussi.
Complètement.
Et peut-être que les œillères, ça lui a permis, lui, de tenir debout, et être un roc, ça, oui, lui a permis aussi de garder un rôle important pour vous tenir, votre maman et vous. Oui. Le problème, c'est que le roc, comme vous dites, au bout d'un moment, là, il s'est fêlé, quoi.
Complètement. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, de dire de ce vacarme, de ce bouleversement, c'est un bouleversement... énorme, énorme, et pourtant je suis pas un gamin, hein. J'ai 52 ans, enfin voilà, mais je me retrouve pour le coup comme un gamin, quoi, parce que je me retrouve à devenir trop vite l'adulte que... Voilà, il y a une accélération, qui se fait là maintenant.
Est-ce que vous pensez que vos parents ont fait le deuil ou toujours pas ?
Je sais pas, je sais même plus. Je sais même plus parce que j'ai commencé à... J'ai eu besoin à un moment d'en savoir plus. Donc je suis retourné dans ce village et j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite pendant toutes ces années, c'est que j'ai posé des questions. Et en fait, je me suis rendu compte dans mon village que tout le monde le savait, tout le monde... Et vous savez, un peu ce...
Ah bah c'est une histoire qui marque, ça, j'imagine, forcément.
Voilà, oui, oui. Et donc j'étais comment dirais-je ? Donc je suis allé chercher des informations parce que tout ce que j'avais comme information n'était que par le truchement et par la vision de mes parents.
Ah oui.
Et donc oui, je suis allé entendre la parole d'autres personnes et j'ai pris des notes, j'ai cherché et donc je me suis rendu compte qu'effectivement mes parents n'ont pas fait le deuil. Je me dis, mais pourquoi n'ont-ils pas fait le deuil ? Il y a d'autres parents qui perdent des enfants et qui font le deuil, dans tous les cas, qui souffrent moins ou qui donnent l'impression de moins souffrir. Et je ne sais pas pourquoi, surtout ma mère vraiment, je pense que c'est du culturel, mais il y a quelque chose de sacrificiel chez elle, de très très fort, quoi. Il y a un sentiment de culpabilité énorme. Je pense que mes parents, comme tous les parents qui perdent un enfant, ils ont un sentiment de culpabilité énorme.
Oui, sauf que là, il y a eu un accident, donc c'est encore pire. Et je me demandais, oui, l'autre maman, les autres parents, est-ce que vous avez eu des liens avec eux ? Comment est-ce qu'eux ont vécu ce drame ?
Oui, ils ont la vie après le dessus, je pense, plus chez eux que chez nous.
Ah oui.
J'ai pu le constater, oui, oui. Oui. Voilà, donc ils étaient déjà, la fratrie n'était pas la même, ils étaient trois, donc il en restait deux. Mmh. Et puis ils ont la vie, j'ai l'impression, oui, que la vie a pris le dessus. Je ne veux pas trop parler pour eux, mais en tous les cas, je sais que le papa a été fragilisé comme ma mère, et la mère a été aussi solide que mon père. Voilà, c'était un peu le miroir. Ouais, c'est un peu l'inverse.
Vous parliez de culpabilité, mais c'est vrai que quand on perd un enfant, c'est déjà un drame. Mais quand en plus il y a un accident, là j'imagine qu'on doit effectivement s'en vouloir toute sa vie. Se dire, mais
oui,
une seconde,
oui,
d'inattention,
oui,
oui. Et voilà quoi, ce qui se passe.
Oui, et ça c'est irrémédiable. On ne peut pas y remédier à ce sentiment de culpabilité.
Là, dans un cas comme ça, c'est effectivement très, 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 très difficile. Ouais.
Et ce sentiment de culpabilité, il transpire. Et moi-même, j'en suis complètement imbibé, j'en suis conscient. Hein, parce que pour moi, profiter de la vie, jouir de la vie, et ça me demande, ça me coûte.
C'est comme si vous n'en aviez pas le droit parce que lui n'est plus là.
Exactement. Ouais. Exactement. Ah, oui, complètement.
Vous ne vous autorisez pas à être heureux?
Oh, je ne pense pas, non, je ne pense pas. C'est un...
Je vais vous embêter, Miguel, mais je vous assure que régulièrement, j'ai l'impression de vous perdre, comme si vous bougiez devant le combiné.
Alors, attendez, vous m'entendez là ?
Ah, plus du tout.
Bougez pas. J'ai enlevé la coque de mon téléphone, c'est mieux comme ça ?
Ah, ben là, pour l'instant, c'est parfait, parce que c'est régulièrement...
C'est peut-être la coque, excusez-moi, je vais enlever la coque de mon téléphone.
Merci beaucoup.
Désolé, je suis vraiment désolé.
Non, mais c'est important ce que vous me dites là, effectivement, et vous l'avez bien analysé, c'est que s'autoriser à être à vivre déjà. Et à être heureux dans un contexte de parents qui ne se sont jamais remis de ce décès.
C'est indécent.
C'est quasiment. C'est parce que j'allais vous dire, c'est indécent. En tout cas, c'est comme ça que vous le vivez, vous.
Complètement.
De quel droit je serais heureux alors que mes parents sont désespérés.
Exactement.
Et oui.
C'est exactement ça.
Et pourquoi moi je vivrais, puisque mon petit frère n'a pas eu cette chance-là, quoi.
Exactement.
Non, votre grand frère, parce que vous étiez petit à l'époque.
Ouais. Donc voilà, et ce qui est terrible, c'est que les années passent, comme je vous disais, j'ai 52 ans, et je me dis, bon, on pourrait penser...
Ça continue, hein, je vous entends moins bien par moment. Non, c'est pas la coque, c'est comme si vous bougiez avec le téléphone.
Je bouge plus du tout, là, je suis vraiment statique.
Un pied en l'air, un bras tendu.
Voilà, très bien.
Là, parlez bien dedans, juste, c'est surtout ça.
D'accord. Donc là, je ne bouge plus. Oui, du coup, on disait, excusez-moi...
J'ai perdu le fil aussi, pardonnez-moi. Là,
oui. Bon, ben voilà, oui, malgré les années qui passent, on pourrait dire que ça va se tasser. Et en fait, en voyant vieillir mes parents et en voyant voilà, petit à petit se rapprocher de la fin,
c'est comme si ça remontait.
Oui, exactement. Ouais, ça remonte.
Bah, c'est un peu normal, c'est-à-dire que la fin de vie de vos parents fait forcément redéfiler tout le film de la vie.
Exactement.
Et ça vous met fatigué. Mais j'étais en train de me dire, puisque là, vous avez l'impression j'ai l'impression que vous êtes en introspection, est-ce que vous n'avez pas pensé à écrire toute cette histoire ?
Oui, parce que, comme je vous disais, je suis allé dans mon village, j'ai fait une enquête, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai voulu recueillir la parole des gens, des personnes qui étaient là, avec qui j'ai grandi toute ma vie, mais personne n'en parlait, quoi. Les adultes autour de moi. Et donc, j'ai recueilli cette parole et... j'ai eu un besoin énorme, mais vraiment physique.
Je vous entends pas très bien, Miguel. Je suis désolée.
Je disais, j'ai eu un besoin physique d'écrire. Et je disais à mes parents, j'ai besoin d'en savoir plus. Je leur ai posé plein de questions. Je n'avais jamais osé poser de questions. Et c'était en décembre 2019 où j'ai commencé à leur poser des questions. Et... ils m'ont répondu à toutes mes questions. Avec mon père, je n'avais jamais parlé, vous vous rendez compte. Et mon père et mes parents n'avaient jamais pu parler entre eux. C'était terrible.
Et tout ça, vous l'avez écrit pour vous ?
Oui, je l'ai écrit. Je l'ai écrit pour moi, c'était indispensable. Alors que je n'avais jamais écrit auparavant. Moi, je suis que comédien, chanteur, mais je ne suis pas auteur. Parce que il y a des gens qui écrivent quand la plume facile, moi pas du tout. Mais j'ai eu besoin d'écrire. J'ai écrit... Et ça m'a... Mais vous savez, j'ai écrit en pleurant. Je ne m'y attendais pas du tout.
Non, ça m'étonne
c'était
pas,
douloureux. C'était vraiment très douloureux. Très douloureux. Et je me disais, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu te fais mal ? Pourquoi tu te fais mal ? Mais il a fallu que j'aille au bout de cette écriture. Avec beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes. Et j'en ai fait un monologue. Et que j'ai eu l'occasion de lire à quelques personnes qui m'ont dit, mais il faut absolument que cette parole, on l'entende, parce que ce dont je parle là, c'est la fameuse résilience, hein. C'est un mot très à la mode, mais pour le coup, moi, je l'éprouve depuis ma naissance, depuis mes 2 ans. Et donc, je pensais en faire quelque chose que pour moi, ouais. De manière égoïste, parce que, pas de égoïsme, disons que c'était que pour moi parce que c'était une nécessité. Mmh. Voilà, une nécessité. Et donc, quand je l'ai lu, on m'a dit, mais il faut que tu le montres sur scène. Je l'ai montré sur scène et les personnes étaient bouleversées. Et moi, j'étais bouleversée de voir qu'elles me disaient que elles aimeraient ou elles auraient aimé parler de leur souffrance comme ça aussi, ou de leur nom dans les familles.
Mais parce que je pense que c'est un thème qui touche tout le monde d'une manière ou d'une autre.
Oui. Et donc j'en ai fait un seul en scène que je joue là. Je vais jouer sur Paris. Et,
parlez-moi un petit peu de ça.
Ben oui, c'est très récent. Ça va se faire là maintenant. Je joue du 27 au 30 octobre. Et après, on va essayer à nouveau en décembre. On va essayer de. J'ai rencontré un producteur qui a été très séduit par l'écriture. Et puis, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, qui me disent allez, vas-y, fonce, on a envie de te voir dans ça. On a envie d'entendre cette parole-là. Donc là, je vais jouer à Paris, à l'Archipel, la semaine prochaine. D'accord. Et après, suite à ça, on va voir si. Mais vous savez, ce qui est quand même terrible dans ça, c'est que j'ai eu l'occasion de le jouer en avant-première, vraiment en catimini. C'est que les gens m'applaudissent à la fin. C'est terrible, en fait.
C'est ce que je vais vous demander. Comment vous vivez le fait de partager ça? Parce que c'est chose d'écrire dans son coin et une autre de partager ça avec des inconnus.
Oui, ben oui, mais vous savez, moi, quand j'ai écrit ce texte-là, et quand je me suis dit, bon, je vais le lire, je vais le faire pour moi, je vais le montrer à quelques personnes. Et quand à la fin, je sens que les gens, la plupart du temps, les gens sont en pleurs parce que ça les a profondément touchés et parce que ça leur remue des choses dans leur histoire. Et ensuite, quand les gens m'applaudissent ou viennent me féliciter, je me dis, mais c'est horrible, quelque part, c'est horrible. Je me dis, ils sont en train d'applaudir le malheur qui a été le
mais
nôtre.
Mais non, bien sûr que non, Miguel.
Voyez
très bien. Là, c'est de l'autoflagellation. Attention, vous vous interdisez une fois de plus.
Oui, la jouissance.
Exactement. Attention à ça. Ouais. Ils applaudissent votre sensibilité probablement et le talent avec lequel vous dites ce texte et surtout votre profonde sincérité qu'on entend d'ailleurs ce soir à l'antenne. Mm-hmm. Et là, une fois de plus, maintenant que vous en prenez conscience, vraiment s'il vous plaît, autorisez-vous à ça. Acceptez aussi les applaudissements.
Ah ben, et je ne vous cache pas que là, je suis à quelques jours de la première et je me dis mais de quel droit je fais ça? Les gens vont venir et je me dis mais comment est-ce possible de leur imposer ça et en même temps de dire aux gens qui vont m'applaudir ou apprécier ça, je me dis mais ça parle d'un malheur, ça parle mais ce que j'ai compris quand j'ai eu l'occasion de le lire ou de le jouer au mois de juin, je me suis rendu compte que ça fait du bien. Les gens me disent que ça leur fait du bien. Donc pour le coup, vraiment, je m'attendais pas du tout, c'était pas du tout l'effet recherché.
Je comprends pourquoi mon intro a résonné en vous. Alors tout à l'heure, c'est un
ah ben oui,
un
curieux hasard. Oui, les mots là. Donc. Donc voilà. Donc et maintenant c'est très excitant de savoir parce que je joue à Paris. À Paris, je suis monté à Paris pour faire ce métier, pour prendre la parole justement. Parce que moi, je le dis dans mon texte d'ailleurs. Je le dis moi depuis l'âge de 4-5 ans. Mon père me disait quand j'étais gamin, il me disait de monter quand je montais sur les tables dans les restaurants et il me disait tape plus fort quand je chantais. Il me disait tape plus fort avec les pieds. Je paierai la table. Et en fait, mon père me disait vas-y, chante. Et il fallait que je chante, je fasse le spectacle.
En faisant ça, il vous a aidé à quand même prendre votre place qui finalement était que vous n'osiez pas prendre. J'ai entendu que vous étiez un petit garçon qui ne faisait pas de vagues parce que quand on a des parents qui souffrent tellement, on essaie effectivement d'être le plus parfait possible pour ne pas en rajouter. Et en faisant ça, votre père vous a quand même autorisé à casser le cadre.
Oui, et c'est pour ça que quand il a failli mourir sous mes yeux et que je sens que j'ai l'occasion de me reconnecter, d'être très fortement connecté à lui, ça a été terrible. Heureusement qu'il n'est pas parti à ce moment-là, qu'il est encore là, qu'il retrouve ses esprits et je suis très tactile avec lui, j'ai besoin de le caresser, de l'embrasser, de lui dire combien je l'aime et de lui dire combien je l'admire surtout. Et maintenant il est devenu un petit bébé, mais je m'occupe de lui, comme il s'est occupé de moi, il venait toujours me chercher à l'école, il a toujours été très 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 présent, il a été solide et j'ai envie de lui rendre hommage aussi parce que dans ce spectacle, mon père était maçon et à un moment je lui dis et toi tu nous rebâtis le monde avec ta truelle, donc voilà, j'ai des mots avec mon père très fort.
Miguel, merci beaucoup, c'est un très beau témoignage, si vous le permettez vous n'allez pas raccrocher, je vais vous repasser mes assistants. Et d'accord. Avec votre autorisation, je mettrai le lien vers votre spectacle sur ma page Facebook Sabine Marin demain.
Bon, d'accord, merci beaucoup.
Pour les gens qui seraient intéressés et qui auraient envie de prendre contact avec vous ou d'aller vous voir.
Merci.
C'est très touchant votre histoire, votre témoignage. Merci beaucoup de votre confiance, Miguel.
Merci.
Et Et vraiment, comprenez que vous avez le droit d'être heureux. Il y a encore un petit chemin à faire, là, de ce que j'entends.
Oui, tout à fait.
Quoi qu'il se soit passé, chacun a son chemin de vie. Et le vôtre n'est pas celui de votre frère et n'est pas celui de vos parents non plus. Votre énergie à vous est différente et vous avez le droit d'apprécier le bonheur, le succès, la réussite.
Hein ouais. Merci beaucoup.
Vous ne raccrochez pas, comme ça vous laissez les coordonnées de votre spectacle à Cindy ou à Nicolas. Et je mets ça sur ma page Facebook demain. Merci beaucoup de votre appel, Miguel. Je vous embrasse.
Merci à vous, Sabine. Au revoir. Merci.